Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Éclairage avec la rentrée scolaire universitaire aussi, bien sûr. La rentrée des écoliers, des étudiants, bref, de tout ce monde qui s'achemine vers les salles de classe, vers les salles d'université, vers les amphis. Pourquoi en parlons-nous aujourd'hui avec vous, Bernard Bourgeois? Bonjour.
Bonjour.
D'abord parce que vous n'êtes pas du tout un nouveau venu dans le domaine. Hein.
Non.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Eh oui.
J'ai sous les yeux un de vos articles.
Vieux.
Ah non, c'est pas ce que je voulais dire.
Non.
Mais... j'ai un de vos articles dans Le Monde de 1983 intitulé « L'école sans sa République ».
Point d'interrogation.
En 1983.
Oui. Et je dois dire, c'est un article que j'avais rédigé et proposé au Monde plusieurs mois à l'avance. Le sort de cet article, je sais, a fait débat au sein de la direction et de la rédaction du Monde, et finalement, après des insistances, des palabres, l'article est paru, mais il avait été rédigé avant la date que vous avez indiquée, donc il y a 25 ans.
25 ans. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, pas rien.
Oui.
Philosophie.
Je me suis d'ailleurs battu, non seulement pour l'enseignement de la philosophie, mais pour l'enseignement dans son ensemble, dont, au niveau du secondaire, la philosophie peut être considérée comme le couronnement. Et je me suis beaucoup intéressé, donc j'ai été beaucoup passionné même, par la situation de l'école en France. Et malheureusement, j'ai mené un combat avec beaucoup, et un combat dont, me semble-t-il, le résultat a été l'échec.
Non, alors vous dites qu'il a été perdu, mais peut-on être si catégorique?
Je pense, parce que ça fait quand même 50 ans que l'institution scolaire et universitaire française, je la prends en son ensemble, que cette institution me semble aller dans une dérive qui, malheureusement, à mes yeux, n'est pas encore achevée. Je crois qu'il faut que la situation se dégrade encore un peu plus pour qu'on puisse repartir dans un sens totalement différent et à l'opposé pratiquement de tout ce qui s'est fait, à quelques exceptions près, dans l'éducation nationale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Alors bien sûr, Bernard Bourgeois, on va en parler. Je rappelle quand même que vous êtes membre de l'Institut depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous reprochez en premier lieu à l'éducation nationale? La politique de massification lancée après la guerre?
Non, écoutez, l'entreprise d'une démocratisation de l'enseignement à tous ses niveaux, et déjà au niveau de l'enseignement secondaire, pour ne rien dire du supérieur, cette entreprise de démocratisation était absolument nécessaire.
Ah bon, d'accord.
Ah ben, il fallait démocratiser l'enseignement, permettre à tous les jeunes qui en avaient le goût, la volonté et peut-être les moyens, d'aller jusqu'au sommet de la formation scolaire et universitaire. Il fallait démocratiser l'enseignement en France, c'était bien, malheureusement. On a pensé que cette entreprise de démocratisation de l'enseignement devait être une entreprise adaptant le niveau des exigences à ce qu'on croyait être les capacités du peuple, c'est-à-dire qu'elle s'est faite dans une sorte de défiance, ou de méfiance, pour ne pas dire de mépris, à l'égard du peuple. On a pensé que la démocratisation de l'enseignement devait s'accompagner d'une baisse des exigences qui étaient réclamées auparavant dans tous les niveaux de l'enseignement.
Mais si je prends un fait précis, Bernard Bourgeois, par exemple les résultats du bac.
Oui.
Bon, grosso modo, combien de reçus au bac chaque année sur une classe d'âge? À peu près 80%.
80%.
Bon. Si on regarde les filières générales, c'est toujours la moitié.
Oui.
Et si on regarde les filières mathématiques, on est toujours à peu près autour de 20%, 17%.
Oui.
Ce qui
correspond
en réalité à la tranche d'élèves qui va aller le plus loin dans les
Bien
études.
Bien sûr. Ce qui m'a d'ailleurs frappé, j'ai présidé pendant de nombreuses années un jury d'agrégation en philosophie, et les courbes que je faisais dès les années 1970, et j'ai quitté la présidence du jury en prenant ma retraite en 1999. Bien, les courbes étaient des courbes en dos de chameau et non pas de dromadaire, c'est-à-dire avec deux pics. Ce qui semblait indiquer qu'il y avait en réalité deux populations. Une population dont le niveau restait égal à lui-même, c'est-à-dire bon, et une autre population constituée par des élèves, des étudiants qui manifestement avaient des difficultés sérieuses. Par conséquent, je sais que cette année, les pouvoirs publics se sont félicités d'avoir obtenu au baccalauréat des résultats exceptionnels, que jamais le niveau du baccalauréat, j'exagère un peu dans la formulation, mais enfin, en gros, c'est ce qu'on a voulu nous dire, jamais le niveau du baccalauréat n'avait été aussi élevé. On prend un peu les gens pour des imbéciles.
Reprenons sur les fondements, si vous le voulez bien, Bernard Bourgeois. Donc, oui à la démocratisation de l'enseignement.
Bien entendu.
L'élève au cœur des savoirs, au cœur des apprentissages.
Oui, les savoirs au cœur de l'élève aussi, et non pas simplement un pédagogisme stupide.
Bon, vous parlez de la perversion du pédagogisme.
Oui. Ben, je pense, voyez-vous, que l'école française, l'école qui était la plus fréquentée, c'est-à-dire l'école primaire avant la Deuxième Guerre mondiale, un nombre relativement important de jeunes de tous les milieux, milieux ruraux aussi bien qu'urbains, atteignaient le certificat d'études, étaient reçus au certificat d'études. Je pense que l'école primaire avait bien fonctionné. Elle avait bien fonctionné et il n'y avait pas, à mes yeux, de nécessité d'une réforme pédagogique envisagée en tant que telle, une réforme au niveau du primaire et bien entendu, a fortiori, croyait-on, au niveau de l'enseignement secondaire. Je veux dire par là que pédagogiquement, je ne dis pas socialement, mais pédagogiquement, on ne pouvait pas considérer que l'enseignement primaire, par exemple, avait été un échec, ni même l'enseignement secondaire. Je veux dire par là qu'une réforme proprement pédagogique ne s'imposait pas.
C'est-à-dire
que le milieu scolaire...
Le système était bon.
La pédagogie qui était pratiquée par les instituteurs, par les professeurs de lycée, est une pédagogie dont je ne vois pas en quel sens on pouvait considérer qu'elle devait être fondamentalement bouleversée. Et si vous le permettez, je dirais que cette pédagogie, par exemple, au niveau du primaire, était une pédagogie pragmatique. Elle n'était pas déterminée, conditionnée, limitée par des préoccupations, si vous voulez, d'experts. L'enseignement de la Troisième République au niveau de l'école primaire était un mélange empirique, pragmatique, de l'enseignement traditionnel que l'école républicaine avait hérité, si vous voulez, des pratiques des collèges jésuites. Une éducation et un enseignement stricts, on commence par les éléments, on finit par les totalités, c'est ce qui prédominait dans l'enseignement du calcul, dans l'enseignement du français, dans l'enseignement de l'histoire, etc. Un enseignement traditionnel de type analytique est très directif.
Quand on dit analytique, une précision ?
On commence par les éléments. On commence par l'élémentaire.
L'élémentaire jusqu'au complexe.
Jusqu'au complexe, en particulier dans la méthode de lecture. En même temps, alors, les instituteurs avaient repris cet héritage traditionnel remontant très loin, qui était pratiqué dans les établissements, en particulier illustré par les jésuites. Mais, en même temps, et sous l'inspiration des rénovateurs, des diffuseurs de l'école enfance, Jules Ferry, Ferdinand Buisson et quelques autres, on avait introduit des méthodes et des démarches nouvelles. Par exemple, à travers ce qu'on appelait la leçon de choses. Ferry, Buisson disaient d'ailleurs qu'il fallait qu'un enseignement vivant ne commençât pas par les éléments, mais par l'abstrait, mais par ce qui était concret, par les totalités. Et on trouve chez Ferry, chez Ferdinand Buisson et d'autres, la volonté de passer de la méthode qui va de l'abstrait au concret, c'est-à-dire de l'élémentaire au total, à la méthode inverse, consistant à partir des touts, parce que les situations dans la vie sont toujours des situations totales, concrètes, pour aller aux éléments. C'est-à-dire qu'on préconisait ce qu'on a appelé ensuite la méthode globale. Ferry, Buisson et les autres voulaient renier en effet une grande partie de l'héritage traditionnel. Il fallait que l'école ne reste pas un cloître ou une prison, mais qu'elle devienne un jardin. Tout cela, c'était l'apport original de ces réformateurs de l'école publique en France, que beaucoup considèrent comme étant au contraire les héritiers stricts de la méthode analytique, de la méthode rigoureuse, d'une méthode qu'on considérait comme répressive et par conséquent incompatible avec le projet d'une socialisation, une démocratisation de l'enseignement. Ces deux méthodes étaient pratiquées de façon empirique. Il n'y avait pas ce doctrinalisme qui est apparu après la guerre et qui a fait qu'on a voulu déterminer la pédagogie à partir d'a priori théoriques qu'on prétendait scientifiques. Et c'est alors qu'a commencé la grande querelle concernant la pédagogie dans les institutions scolaires françaises, méthode analytique, méthode synthétique, etc.
Mais alors, Bernard Bourgeois, la démocratisation de l'enseignement est compatible avec le système qui prévalait avant la guerre?
Je pense...
On aurait réussi.
Un système qui n'était pas, je vous dis, qui était empirique, pragmatique, qui comportait des éléments de type analytique, des éléments de type synthétisant. Et je pense que cette pédagogie, qui était pratiquée comme un art, ce qu'elle doit être...
Un art et pas une science.
Et ni une technique. Laissait une assez grande liberté de choix aux maîtres, en particulier aux instituteurs et aux professeurs de l'enseignement secondaire, et par conséquent avait une souplesse qui faisait que tel ou tel instituteur pouvait, si vous voulez, introduire des éléments qui avaient été préconisés par un certain nombre de courants, l'école émancipée, etc. Vous voyez, par conséquent, il n'y avait pas ce doctrinalisme qui a soumis, après la guerre et pendant tout le second demi-siècle, l'enseignement français à des théories pédagogiques qui ont été de plus en plus envahissantes et qui ont constitué cette dérive pédagogiste dont on n'est pas sorti.
Mais pour Philippe Mérieux, donc professeur en sciences de l'éducation, bien connu, hein,
bien
qui a servi d'inspirateur à tout ce mouvement, il n'y a pas de contradiction entre la transmission des savoirs et le fait que l'élève soit au cœur de l'apprentissage, que le pédagogisme serve à l'épanouissement de l'élève. Il n'y a pas de contradiction. Cette contradiction est inventée, selon lui, par précisément des personnes comme vous qui décriez le système.
Mais je, si vous voulez, je viens de faire l'éloge du pragmatisme et de l'empirisme, à savoir qu'il faut se laisser aller un petit peu à son talent ou à son génie propre dans la pratique éducative. C'est un art, c'est difficile. Je crois qu'il y a deux conditions qui sont absolument nécessaires pour qu'une pédagogie soit réussie. Il faut d'abord qu'on sache très bien soi-même ce qu'on enseigne. Pour bien enseigner quelque chose, il faut le savoir bien. Et deuxièmement, il y a la capacité qui renvoie bien sûr à toute l'enfance, à toute l'adolescence, chez chacun, la capacité que doit avoir le maître de nouer un rapport direct avec les élèves qu'il a devant lui. Et ça, si vous voulez, bien sûr, c'est conditionné par l'existence sociale, c'est conditionné par la vie familiale. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas être le produit d'une simple technicité, et d'un certain nombre de règles dans lesquelles on voudrait emprisonner la pratique éducative qui, encore une fois, comporte des éléments techniques, bien sûr, mais relève de ce qu'on peut appeler un art, de telle sorte que les enseignants aussi, et ils le savent, se forment, pour une grande part, dans et par leur pratique elle-même. Par conséquent, je ne suis pas un doctrinaire, je regrette simplement qu'un certain nombre d'experts aient voulu nous faire croire qu'il y avait des règles qui permettaient d'être un bon enseignant, quel que soit le contenu que l'on enseignait et quel que soit le lien, la qualité du lien qu'on pouvait nouer avec les élèves comme on peut le nouer avec quiconque, voyez. Je pense que ce sont deux conditions fondamentales. Bien savoir ce qu'on enseigne, être capable de s'adresser directement à autrui, ce qui exige qu'on le respecte et qu'on l'aime aussi et qu'on puisse donc le traiter comme un égal. L'éducation ne peut pas être un dressage, l'enseignement ne peut pas être un dressage. Fichte le disait, l'éducation c'est une interaction entre l'enseignant et l'enseigné, mais c'est une interaction inégale et on ne peut pas dire que le
n'est pas inversé,
l'économie du maître, bien sûr.
Oser être un maître, hein, c'est d'ailleurs une phrase que vous avez employée dans cet article que j'ai cité au début du journal Le Monde paru en octobre 1983, qui montre que dans ce combat, vous étiez au premier rang.
Bah, écoutez, nous étions un grand nombre d'enseignants français, tout en faisant absolument leur travail, en assumant leurs responsabilités dans le cadre des lois et des règlements, ont dû quand même, dans leur pratique éducative et d'enseignement, ont dû quand même enseigner pour une large part contre les directives ministérielles qui leur étaient imposées, quelle que soit la couleur du responsable du ministère de l'Éducation, car de ce point de vue-là, sous des ministres de gauche ou des ministres de droite ou des ministres du centre, les mêmes problèmes, les mêmes démarches se sont répétées.
À tout de suite, Bernard Bourgeois.
Vous écoutez Canal Académie.
Éclairage donc avec Bernard Bourgeois, membre de l'Institut, professeur émérite de philosophie, parisien, la Sorbonne, qui nous accompagne donc dans cette thématique sur l'école, l'université, l'enseignement, cette réflexion, 25 ans, 30 ans après que vous avez engagé ce combat contre cette dérive de l'enseignement. Je souligne, ça peut peut-être vous intéresser d'ailleurs Bernard Bourgeois, j'ai découvert récemment l'ouvrage de Kevin André, Les désarrois d'un jeune instit, c'est un diplômé de l'ESSEC qui a un DEA de philosophie, qui s'est pris de passion pour cette vocation d'instituteur. Il explique dans ce livre paru aux éditions Jean-Claude Lattès pourquoi un jeune instit passionné décide, après 3 années d'exercice, eh bien finalement de quitter l'éducation nationale, indigné par l'indifférence et la pesanteur de la hiérarchie, puis le fait qu'il ne pouvait pas vraiment faire son travail. Ça renvoie aussi à ce que vous disiez à l'instant, le fait tout simplement qu'on doit naviguer à contre-courant aussi, hein, qu'on soit instit ou professeur. Je reviens à un aspect quand même que vous soulignez au début, vous disiez le combat est perdu, tout ça, mais le ministre de l'Éducation nationale, Gilles de Robien, a bien pris des engagements aussi de son côté. La méthode syllabique qui revient au goût du jour, il veut prendre des dispositions concernant la grammaire, le calcul. C'est quand même le signe que les choses changent.
Ah non, mais je m'en réjouis parfaitement. Je crois, pour revenir au problème que vous avez évoqué au début de cet entretien, l'école, l'université, le lycée, c'est en son centre une salle de classe ou une salle de cours, un amphithéâtre, mais qui est située dans un alentour proprement scolaire, qui est l'établissement scolaire lui-même. Je pense qu'il fallait absolument rendre cet alentour de la classe plus amical qu'il ne l'était, permettant une expression de la part des élèves, c'est-à-dire des étudiants, beaucoup plus libre d'eux-mêmes, mais que à l'intérieur de la classe ou de la salle de cours, il fallait maintenir la rigueur d'un engagement magistral. Or, très souvent, la réforme a consisté à faire le contraire. La classe est devenue trop souvent le lieu d'un laxisme pédagogique tout à fait pernicieux.
Et l'extérieur, le flicage.
Et l'extérieur s'est durci au lieu de s'ouvrir de façon à permettre à l'école de devenir un véritable, comme on le dit maintenant, lieu de vie. Donc, la classe magistrale, avec sa rigueur. Bien entendu, l'élève doit participer, l'enseignement n'est pas un dressage. Mais sous l'autorité assumée d'un maître, conscient de sa responsabilité, mais ceci dans un milieu scolaire qui soit un milieu de vie plus libre et plus gai qu'il ne l'était auparavant. Or, on a fait le contraire, la classe, le laxisme, est un durcissement de l'autorité dans les établissements scolaires.
Là où l'autorité peut encore être respectée.
Voilà.
Mais alors quand même...
Alors je voulais dire une autre chose aussi. Vous avez évoqué la querelle à propos de la lecture, de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Un certain nombre en France, par exemple, ont cru que ce problème et que cette tension était quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui était extrêmement ancien au XVIIIe siècle. Ce siècle qu'on a appelé le siècle de l'éducation. Les débats au sujet de l'enseignement de la lecture, au sujet de l'apprentissage de l'écriture, au sujet de l'étude des textes.
On s'étripait déjà sur ces questions ?
Mais écoutez, bien entendu, j'ai étudié en particulier ce que pensait Kant, ce que pensait Hegel de la question. Les choix étaient déjà les mêmes, ou méthode globale, ou méthode analytique.
Ça se posait déjà en ces termes ?
Absolument en ces termes. Hegel, par exemple, prenait position, ça ne surprendra pas ceux qui le connaissent, prenait une position clairement et nettement contre les méthodes globales. Vous voyez ? Lui qui est pourtant le philosophe du concret, le philosophe du total et le philosophe du global.
Précisément.
Celui à qui on reproche son totalitarisme, aussi bien politique, à tort, qu'au point de vue théorique. Lui, le philosophe du concret, le philosophe du tout, faisait l'apologie des méthodes analytiques, estimant qu'il faut toujours commencer dans l'apprentissage par les commencements et par l'abstrait. Parce que rien n'est plus difficile que de saisir le concret. Le concret immédiat n'est pas du concret, c'est pas une synthèse, c'est un mélange. Par conséquent, je tenais à dire que ce débat qu'on a cru une conquête de l'époque contemporaine était un vieux débat et que les positions avaient déjà été affirmées, expliquées de part et d'autre.
Et qui défendait la méthode syllabique ?
La méthode syllabique, c'était, lorsque j'étais dans le vieux temps, le temps reculé, élève à l'école primaire, c'était la méthode syllabique.
Mais à l'époque de Hegel ?
La réforme de l'école, c'est un champ dans lequel s'est illustré à l'époque quelqu'un comme Pestalozzi. Vous voyez ? Pestalozzi qui réclamait un changement et de la démarche de l'instruction et du contexte éducatif. Ses attitudes scolaires étaient donc parfaitement pratiquées et illustrées. Par conséquent, on n'a rien découvert et je pense qu'une information historique plus grande aurait peut-être permis d'éviter des engagements excessifs de part et d'autre.
Alors Gilles de Robien et la méthode... Et après la méthode syllabique remise à l'honneur, le calcul, la grammaire, tout ça.
Je ne peux qu'approuver.
Mais ça consiste en quoi, au juste ?
On a beaucoup parlé de l'enseignement. Je réponds à votre question, là, même pas un petit détour. On a beaucoup parlé de l'enseignement des mathématiques nouvelles, etc. Bon, on a considéré que ça avait été un des hauts lieux de la réforme. Les mathématiciens sont revenus, vous le savez. Au fond, seuls les très bons élèves ont pu profiter de la nouvelle méthode d'enseignement des mathématiques, c'est-à-dire ceux qui, au fond, n'ont guère besoin d'être enseignés ou qui ont moins besoin d'être enseignés. L'enseignement qui a été le plus réformé, qui a été le plus bousculé et, à mon avis, le plus saccagé, ça a été l'enseignement fondamental, l'enseignement de la langue véhiculaire pour toutes les autres disciplines, c'est-à-dire l'enseignement des Français. J'étais parent d'élève, mes enfants se sont échelonnés sur un certain nombre d'années. J'ai donc pu suivre, par exemple, ce qu'on leur imposait en français quand il y en avait, comme grammaire, et puisqu'au contraire, on voulait noyer la grammaire dans le concret de la lecture et du contact avec les textes, dans les plages de grammaire qui figuraient dans les ouvrages de lecture. C'était d'une difficulté et d'une obscurité absolue. Les élèves ne pouvaient absolument rien y comprendre, les maîtres non plus. Je trouvais illisibles ces nouveaux discours de grammairiens.
C'était souvent dérivé de la théorie des ensembles, si je me souviens bien.
C'est ça, mais on a pensé que finalement, l'enseignement ne pouvait réussir que s'il tenait compte des derniers résultats obtenus par les sciences théoriques, par exemple, comme la linguistique. Par conséquent, il y a eu, je pense, ici une confusion du théorique et du pratique. Et en tout cas, l'enseignement du français, l'enseignement véhiculaire de tous les autres, a été, si j'ose dire, ravagé. Vous allez me dire, les fautes d'orthographe, les fautes de style, c'est pas ce qui importe. On ne peut faire l'économie de la règle, nulle part. La parole est ce qu'il y a de plus personnel, d'une part. C'est vrai. Parler, c'est assumer personnellement un langage ou une langue qui est le produit historique dont se sert toute une communauté. Rien n'est plus personnel que la parole. mais la parole doit consister dans l'assomption personnelle d'un langage dont les règles doivent être connues et respectées. Là encore, le personnel et l'originalité ne s'opposent pas aux directifs et à ce qu'il y a d'universel dans les règles, etc.
C'est au contraire le directif et l'universel qui va permettre à la personnalité de s'épanouir.
Bien sûr, on n'est pas original en s'opposant à la règle et aux lois, mais dans la vie, en synthétisant, en unifiant de la façon la plus cohérente possible les règles et les lois qui doivent être bien connues. C'est dans la concrétisation de la loi et non pas dans son ignorance que l'on peut être le plus original et le plus personnel. Le personnel et l'universel vont toujours ensemble. Par conséquent, je ne peux que bénir les projets ministériels actuels, à savoir de redonner, de retrouver dans les établissements scolaires, enfin, cet apprentissage rigoureux du calcul, de l'orthographe, du style, etc.
Et dès le primaire, parce que c'est le primaire qui est l'étape clé. Hein.
Tout est conditionné par le primaire. Le primaire n'a plus fait son travail. Le secondaire a dû le faire. Il n'a plus fait son propre travail et c'est les universités qui ont dû s'en charger. La réforme doit commencer par le primaire. Je voudrais dire qu'il y a quand même, parce que on va me reprocher ce pessimisme outrancier, il y a quand même en France un lieu, un niveau de l'éducation et de l'enseignement qui est resté, qui est resté très bon, c'est celui des écoles maternelles. Parce que là, justement, les principes appliqués correspondaient davantage aux possibilités des enfants. Mais à partir de 4 ou 5 ans, un enfant est capable de savoir ce que c'est qu'une règle et ce que c'est qu'une loi. Et dans le domaine théorique comme dans le domaine pratique, c'est à cette notion de loi, de normes et de règles qu'il faut donner sens, non pas pour briser et pour brimer les spontanéités et l'originalité à laquelle chacun aspire et à juste titre, mais au contraire pour faire en sorte que l'originalité ne consiste pas dans l'insignifiance, mais qu'au contraire, elle soit une nouvelle façon personnelle de tirer parti, de profiter de l'acquis culturel qui ne peut être assimilé qu'à travers un certain nombre de règles et de principes.
Question un peu annexe, Bernard Bourgeois, puisqu'on parle du français et du primaire. Êtes-vous favorable à l'enseignement de l'anglais dès la classe de CP, il me semble, à hauteur, là aussi si je me souviens bien, d'une demi-heure par jour d'anglais?
Écoutez, on ne peut qu'être favorable à l'apprentissage réel et à l'apprentissage concret des langues étrangères par les enfants. Les Français parlent le français et on leur reproche trop souvent de parler que le français. Par conséquent, on ne peut qu'être favorable, mais à une condition. Et c'est toujours cette condition à laquelle il faut penser lorsqu'on veut introduire des enseignements nouveaux, à la condition que l'enseignement basal, fondamental du français n'en souffre pas. Vous voyez, ajouter des enseignements nouveaux, bien sûr, mais veiller d'abord à ce que les enseignements prioritaires n'en souffrent pas. Mais si l'enseignement du français est un enseignement qui est restauré, etc., bien entendu que les jeunes français apprennent des langues étrangères, c'est absolument nécessaire.
Bernard Bourgeois, membre de l'Institut, à tout de suite.
Un nouvel espace est lancé sur le site de Canal Academy, l'espace Apprendre. Un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement avec l'espace Apprendre de Canal Academy, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre.
Les questions d'enseignement à la une de cet éclairage avec Bernard Bourgeois. Bernard Bourgeois, membre de l'Institut, professeur émérite à la Sorbonne de philosophie et qui étudie toutes ces questions depuis une bonne trentaine d'années. et qui nous incite quand même à l'optimisme. Parce que vous avez dit tout à l'heure, le niveau en maternelle, par exemple, ça se maintient, on arrive... Et puis, il y a bien sûr aussi la passion des enseignants. J'aimerais revenir, si vous le voulez bien, Bernard Bourgeois, je cite Laurent Laforgue. Vous savez, Laurent Laforgue, qui a démissionné du Haut Conseil de l'Éducation, mathématicien, médaille Fields en 2002, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, donc une pensée française, si je puis dire, et puis un référent en matière d'enseignement supérieur de mathématiques. Voilà ce qu'il écrit, c'est dans les colonnes de l'Express. Pour tous les savoirs fondamentaux, l'ancien certificat d'études qu'on passait entre 12 et 14 ans était supérieur au baccalauréat actuel. Proposons-le à nos terminales, la plupart échoueraient. Un professeur d'Hippocagne reçoit des copies indignes de 6e des années 60. Un physicien d'université demande à ses étudiants d'énoncer le théorème de Pythagore. Sur 54 copies, 8 donnent la réponse. Depuis ma démission du Haut Conseil à l'éducation, j'ai reçu plus d'un millier de témoignages semblables de professeurs ou de parents. Vous seriez par exemple favorable à l'idée de restaurer le certificat d'études ?
Un mot d'ordre, passéiste, au moins d'apparence, n'est jamais bon. On ne peut se donner que des mots d'ordre et se fixer que des projets qui tiennent compte de la situation présente. Car si l'éducation exige la fixation d'un but qui est l'homme développé et l'homme accompli. But qui est constant, qui est permanent. L'éducation est constituée par un cheminement qui doit aboutir à ce but, mais qui part de situations qui, elles, sont constamment nouvelles, des situations qui dépendent du cours de l'histoire. Et par conséquent, pour éduquer les gens, il faut les prendre où ils sont et comme ils sont, pour les amener où on veut qu'ils aillent, dans un cheminement qui doit nécessairement comporter une grande part de négativité, de négation, j'ose le mot, de répression, sans qu'évidemment soit jamais affaibli en son cœur et en son fond, La liberté, la spontanéité, l'inventivité des élèves ou des étudiants. Par conséquent, pas de mot d'ordre passéiste. Il faut obtenir ce qu'on obtenait autrefois dans un contexte différent et donc par des démarches qui doivent nécessairement être dans leur contenu nouvelles, même si leur orientation reprend l'orientation des démarches passées. Par conséquent, je ne suis pas pour une restauration de ce qu'on appelait l'école républicaine, mais pour une instauration nouvelle d'une école qui se fixait des objectifs semblables à ceux qui étaient celles de l'école républicaine.
Voilà, c'est dit autrement.
Et qui veut que ces objectifs puissent être proposés à tous.
Alors je résume la question un peu autrement.
Oui.
Un enseignement plus dense, qui restaure le primaire, comme oui. vous l'avez dit, enfin qui
le réinstaure
le primaire. Un enseignement plus dense, vers 12 à 14 ans, une forme de certificat d'études qui fasse le point sur les enseignements et les acquis à ce moment-là. Et la fin du collège unique après. Parce que c'est le collège unique obligatoire, vous n'y êtes pas favorable.
Non.
On imagine bien. Non,
si vous voulez, le nombre de choses auxquelles je ne suis pas favorable est considérable, bien sûr.
Donc avoir un enseignement beaucoup plus dense, beaucoup plus efficace jusqu'à l'âge de 15 ans, grosso modo, entre 12 et 15, et après que la sélection se fasse différemment. Ça serait votre orientation.
Bien sûr, il ne faut jamais sous-estimer l'homme. Il ne faut pas désespérer de lui. Par conséquent, il ne faut pas craindre de beaucoup exiger de lui. Il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait de la concurrence, de la stimulation. Et très tôt. En même temps, donner confiance aux jeunes toujours, parce que il est déjà libre en lui-même. Et par conséquent, il est à respecter pleinement. Et il faut bien veiller à ne pas affaiblir son originalité, son tonus, enfin son inventivité. Mais le discipliner, voyez, non pas supprimer cette liberté native qui existe dès qu'apparaît un homme. Il est métaphysiquement ou fondamentalement libre, c'est pourquoi il est capable de tout. Voyez, donc ne jamais réprimer ce qui est finalement le germe de la vitalité et de la vitalité spirituelle. Mais toujours le discipliner, je dirais qu'il faut toujours à la fois considérer l'homme comme étant originairement libre et deuxièmement, en même temps, considérer que cette liberté doit être affirmée librement, c'est-à-dire sous la forme d'une libération dans laquelle le concours de l'autre et du maître en particulier est nécessaire. L'homme est libre d'emblée. Et ça, la pédagogie nouvelle l'a vu. La pédagogie ancienne ne l'avait peut-être pas assez appliquée. Mmh. Mais en même temps, cet homme libre, il est libre en tant qu'il se libère, et il se libère, si vous voulez, c'est une mise en œuvre de la liberté, une mise en œuvre libre de la liberté, par le concours de l'autre, et en particulier du maître. Donc, ceci doit se manifester dans la pratique éducative. Donc, beaucoup exigé de l'homme, parce qu'on voit en lui un être libre, et en même temps, bien sûr, faire en sorte que tous puissent profiter de cette exigence, car je n'en ai pas parlé, mais ça va de soi, le problème des conditions sociales de l'éducation, le problème du rôle du milieu, le problème du rôle de la famille, sont des problèmes qui sont capitaux. Mais encore une fois, je crois qu'il faut distinguer l'acte scolaire du milieu scolaire et du milieu social dans lequel s'insère ce milieu scolaire lui-même. Mais j'ai voulu essentiellement rappeler que si l'école est bien dans la vie, est bien dans la société, si elle est un lieu d'éducation parmi d'autres lieux, elle n'est pas le seul. Il y a la famille, il y a le milieu social, il y a les médias. C'est quand même le milieu éducatif privilégié, celui grâce auquel tous les autres milieux peuvent être exploités et par lequel ils peuvent être constitués en milieu performant. L'éducation, l'enseignement scolaire, c'est l'enseignement, l'éducation qui rend fécond tous les autres. Mais encore faut-il qu'on puisse permettre à tous de profiter de cette relation scolaire d'enseignement. J'ai fait abstraction, évidemment, de ces aspects qui sont fondamentaux, mais je crois qu'il faut bien voir que si l'école est dans la vie, elle est quand même soumise à des exigences qui sont des exigences propres, et il ne faut pas, si vous voulez, faire abstraction de cette spécificité et penser que la solution du problème de l'école est seulement une solution sociale. Il faut
alors justement
qu'il y ait une solution sociale, mais ça ne doit pas signifier que on puisse faire abstraction des exigences propres de l'école.
On entend souvent, et sans doute légitimement, oui, des professeurs déplorer le fait que les familles soient absentes, disloquées, que tout cela rejaillisse sur l'école.
Bien sûr.
Mais la politique de l'éducation nationale n'a-t-elle pas été aussi de marquer une césure, une rupture entre le milieu scolaire et la famille?
Écoutez, l'école est dans le milieu social, le milieu familial, le milieu politique, le milieu international à travers la diffusion de la culture, les médias. Bien sûr, l'école est dans son... Mais l'école est le lieu où l'élève doit apprendre à pouvoir se distancer un peu, se différencier, se libérer un peu de ce qui, dans le milieu auquel il appartient, ne favorise pas l'épanouissement de l'homme. C'est pourquoi il y a un lien intime entre l'école et la société, mais à mes yeux, c'est d'abord un lien négatif. L'école doit libérer de ce qui, dans le milieu social, ne favorise pas le développement de la liberté de chacun. Mmh. Et cet aspect négatif du lien intime entre l'école et la vie, l'école et le monde, ce caractère négatif d'un tel lien, justifie qu'on considère qu'il y a des problèmes qui sont proprement scolaires et qui ne peuvent pas être simplement plongés, immergés et défigurés dans le milieu total, dans le milieu total de l'existence, milieu social, milieu familial, etc.
Je reprends, Bernard Bourgeois, l'une de vos réflexions, c'était dans les pages de Libération, et ça ne date pas d'hier. Je citais tout à l'heure le journal Le Monde, oui, en 1983, là c'est en 1992. Vous écriviez: l'ordinateur surprend et captive, double emprise à travers lui sur l'élève de la société qui s'y récapitule. Par lui-même, il ne peut pas faire que l'élève soit élevé dans l'admiration ou s'élève dans la culture de l'esprit critique au-dessus de son milieu. Quand on observe aujourd'hui la réalité suivante, que la moyenne passée devant la télévision, c'est à peu près 3h30 par jour, devant l'ordinateur, ça doit peut-être avoisiner le même nombre d'heures, que nous vivons dans une société beaucoup plus urbaine que rurale, ça, on s'en est aperçu. Tout cela a changé les conditions d'enseigner, non?
Oui, ça a changé les conditions d'enseigner, mais par exemple, je considère que les jeunes, les enfants, les adolescents sont plus vifs, sont plus inventifs que les gens de ma génération.
Plus intuitifs?
Ne l'étaient. y a une vitalité, il y a une capacité d'écoute, etc. Il y a une curiosité. Et je trouve qu'il est dommage qu'on ne profite pas de cet état de choses pour discipliner ces jeunes, parce que la spontanéité plus libre, libérée, si elle était disciplinée, permettrait l'apparition d'élèves, d'étudiants, qui, je crois, réussiraient mieux que nous, ce que nous avons fait. Mais encore faut-il qu'il y ait cette discipline d'une spontanéité plus libre qu'elle ne l'était chez les gens de ma génération.
Autrement dit, des jeunes plus éveillés, plus spontanés, plus inventifs aujourd'hui.
Ah oui, plus libres.
Grâce à quoi?
Si vous voulez,
aux signaux, à la multiplicité des signaux, aux médias.
Et puis, ce qu'on pourrait appeler, en un sens beaucoup plus large que le mot d'à maintenant, enfin, la mondialisation de l'existence. Vous voyez, désenclavement des lieux de vie. Chaque jeune maintenant peut avoir pour théâtre de son existence le monde entier. Sinon directement, mais à travers les médias, il y a une universalisation ambiante de l'existence. Et ça, c'est positif. Mais encore faut-il qu'il y ait qu'il y ait une régulation forte de cette totalisation de l'existence qui autrement n'aboutira qu'à du négatif. Alors pour ce qui est des ordinateurs, on va pas revenir en arrière. Encore une fois, pas de passéisme surtout.
Bien sûr.
Bon, il faut que l'école utilise évidemment les derniers acquis de la technique, mais de telle sorte que ce qui est induit chez les utilisateurs à l'école de ces instruments merveilleux ne soit pas un simple bricolage, ne soit pas un simple jeu. Mais il faudrait en quelque sorte définir des exercices, voyez, des exercices qui mettraient, inciteraient l'élève à utiliser non pas des instruments élémentaires comme il le faisait autrefois, mais ces instruments extrêmement compliqués que sont par exemple les ordinateurs. Définir définir des exercices mettant en œuvre par exemple les ordinateurs, de telle sorte qu'on puisse, avec ces nouveaux instruments et à travers des exercices parfaitement définis, développer chez l'enfant les mêmes qualités d'intelligence qui étaient développées autrefois par des exercices mettant en œuvre des instruments beaucoup plus rudimentaires. Donc faire en sorte que l'utilisation de l'intelligence artificielle ne remplace pas, elle ne le peut pas, l'intelligence réelle, l'intelligence spirituelle, l'intelligence vivante, mais qu'elle permette de faire se développer celle-ci comme les instruments beaucoup plus rudimentaires qui existaient autrefois permettaient le développement de cette même intelligence vivante ou spirituelle. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle tue en la laissant inemployée l'intelligence naturelle ou l'intelligence vivante. C'est une tâche très difficile, mais je crois qu'il faut que l'école tienne compte de ce que la culture, la technique, etc. lui fournit, mais toujours en faisant en sorte que ces instruments puissent être mis en œuvre selon des règles ou des procédures parfaitement définies, de façon que soit davantage cultivée l'intelligence naturelle. Encore faut-il que les élèves qui utilisent les ordinateurs deviennent capables d'en créer eux-mêmes plus tard. Ça exige autre chose que ce qui existe actuellement, à savoir un bricolage.
Mmh. Vous qui avez passé votre vie dans le milieu de la philosophie, est-ce que vous vous seriez vu faire de la philo sur ordinateur? Est-ce que c'est possible ça?
Écoutez, beaucoup de mes collègues pratiquent l'ordinateur beaucoup mieux que je ne le fais et je les envie. Il faut utiliser tous les instruments existants qui peuvent libérer l'acte d'intelligence pour des tâches plus fine et plus fondamentale, bien entendu. Mais je vais vous donner un exemple. Vous évoquez les ordinateurs et les professeurs ou les philosophes ou les professeurs de philosophie. Une dérive se développe actuellement qui fait que l'ordinateur permettant par la mobilisation rapide des sources des collages, même de ce qu'on a fait soi-même. Un professeur universitaire ou conférencier qui a à faire un exposé peut être tenté de faire une combinaison de textes qu'il a rédigés dans le passé, dans des circonstances différentes, évitant ainsi la reprise par le début de la réflexion sur un problème qui est nouveau, correspondant à l'attente d'un public qui est nouveau. Il ne repart pas à zéro. Il ne reprend pas les choses par le commencement. Ça donne des conférences dont on voit tout de suite qu'elles ont été fabriquées. Et ayant été fabriquées, elles n'ont pas d'unité. Et n'ayant pas d'unité, elles ne peuvent pas être assimilées et être utilisées. Vous voyez ?
Ça, c'est un risque de dérive qui existe aussi pour les mémoires.
Ah ben non, mais c'est une, ça devient une plaie.
Une plaie.
Dans les thèses, vous comprenez ? Ce sont les fichiers qui sont convoqués pour constituer la thèse ou un ouvrage quelconque. Mais encore une fois, le multiple ne peut pas s'unifier lui-même et devenir esprit simplement par lui-même, par cette combinaison. Il faut reprendre la chose toujours depuis le commencement. La pensée ou chaque pensée doit être à chaque fois toute la pensée qui s'assume d'une façon nouvelle. Ça, c'est difficile. Alors, il ne faut pas que, encore une fois, l'intelligence artificielle tue l'intelligence tout court.
Merci beaucoup Bernard Bourgeois d'être venu nous parler des questions d'enseignement. Je rappelle que vous êtes membre de l'Institut et que vous êtes professeur émérite de philosophie à Paris 1, à la Sorbonne. Merci.